Bonsoir et bienvenue sur Agora Côte d'Azur dans Parlons des droits humains, une émission proposée et animée par Renaud Broukis
et Martine Monti
avec à la réalisation Nancy Zautier. Ce soir, notre thème est la démocratie participative. Démocratie, comment la définir? Nous avons appris la définition classique, régime politique dans lequel tous les citoyens participent aux décisions politiques par le vote. À l'origine, ce régime excluait pas mal de monde. Les femmes, les esclaves, les pauvres, puis s'est étendu. Cette définition se précise. La France est une démocratie représentative, selon l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Donc, le Parlement représente le peuple français et prend des décisions qui le concernent. Mais dans les faits, les citoyens se désintéressent des élections, les votants ne représentent pas l'intégralité de la population, les citoyens, la société civile, ressentent une déconnexion entre la vie et les décisions prises par les politiques ou la mise en œuvre de ces décisions par les agents de l'État. Un exemple très relié à l'actualité est la constitution d'un gouvernement qui ne reflète pas les résultats des dernières élections législatives. Mais le problème est plus profond et se trouve également au niveau régional, départemental, communal. Alors, la démocratie participative, sujet de notre émission, est-elle une solution pour remédier à cette défiance envers la sphère politique? Permet-elle de recréer du lien entre la société civile et les institutions? Redonne-t-elle une implication réelle des citoyens dans la vie de leur cité, une forme de pouvoir au peuple? Ces diverses formes, concertation, communication, co-construction autour de projets variés, environnement, logement, aménagement du territoire, sont-elles des solutions pour redynamiser la vie démocratique? Se posent également des questions de compétences et de formation pour éviter les dérives et les prises de position extrêmes. Pour nous éclairer sur ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir des acteurs de terrain qui, à travers l'engagement de leur association au mouvement, font vivre la démocratie participative à travers des expériences variées. Donc Yann Salagnon d'Alternatiba, Daniel Aubufoucard du collectif citoyen Fête de la démocratie et Bruno Bazir du collectif Demain Pays de Faïence. Mais auparavant, prenant le temps d'une pause musicale avec une chanson caritative enregistrée par de nombreux artistes en 1985, We Are the World par USA for Africa.
When we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by someone, somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need.
Eh bien, Yann, Daniel et Bruno, bonsoir.
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 Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'abord de présenter chacun respectivement vos associations et les raisons pour lesquelles vous êtes engagés dedans. Donc, on va commencer par Alternatiba. Yann, quel est l'historique, rapidement, quelques phrases, les objectifs d'Alternatiba, et ensuite, pourquoi vous êtes engagé dans ce mouvement?
Oui, donc bonsoir. Bah, Alternativa, c'est un mouvement citoyen qui est né il y a 11 ans au Pays Basque. Ça a commencé par des villages des alternatives, c'est-à-dire des grandes manifestations populaires où le but était de regrouper plein d'acteurs qui vivaient différemment, qui proposaient des solutions alternatives en fait au système dominant, on va dire, capitaliste consumériste. Voilà, ça peut être agricole, ça peut être enfin plein de choses différentes. Et voilà, c'était ça au départ, Alternativa, lancé par le mouvement Bixi du Pays Basque. Et puis après, il a essaimé sur tout le territoire. Voilà, l'objectif étant de le faire grandir. Et maintenant, il y a 115 mouvements locaux, enfin groupes locaux, pardon, sur le territoire français. Un peu, enfin quelques-uns en Haïti, une trentaine, et deux en Afrique de l'Ouest.
D'accord. Ouais. Alors, quel est vous? Votre ouais, et raison d'engagement.
Moi, ma raison d'engagement, bah, c'est que bon, je suis sensible à... enfin, j'ai grandi dans la nature, la forêt, proche de la forêt, on va dire, dans un département, voilà, dans le Jura. Et du coup, j'ai toujours été très sensible à ça, très sensible à l'écologie. Et je suis rentré dans Alternativa il y a 3 ans seulement, après, on va dire, pas mal d'années à me questionner sur les sujets écologiques ailleurs, dans d'autres cadres.
Merci bien. Bruno Bazir, à votre tour. Demain, pays de faïence, qu'est-ce que c'est?
Ben, avec le nom, on se doute un petit peu que ça vient du film Demain, donc, qui est sorti en 2016. Et on s'est servi un peu de ce disons, coup de pouce, de montrer qu'il y avait plein de choses qui se passaient dans le monde et aussi en France. Mais là, sur le pays de faïence, il y a aussi... Déjà, il y a beaucoup de choses qui se passaient. Et donc, on a invité plein d'intervenants à la sortie, à la fin du film, et on a essayé de créer ensuite des ateliers sur les différents thèmes, éducation, économie, alimentation, et tous les thèmes qui étaient abordés. Et donc, le côté très systémique d'adaptation du territoire, c'est ça qui est motivé. Voilà, suite aux prises de conscience d'accélération, crise de 2008 et accélération de la crise climatique. Voilà, donc moi j'ai commencé un peu tôt, en 76, on va pas tricher, des dessins dans une revue écologique quand je faisais mes études à Paris. Voilà, donc c'est vraiment cette accélération des événements qui a fait qu'on s'est engagé encore plus.
D'accord, merci bien. Et donc, Daniel Obufoukar, votre mouvement?
Alors, moi, je vais parler du collectif Fête de la démocratie. C'est un collectif qui a débuté en 2021. Et en fait, il est né juste quelques temps après les élections municipales de 2020. Et il a réuni, en fait, des collectifs citoyens qui ont participé à ces élections en faisant des listes dites citoyennes et participatives et qui avaient pour ambition de prendre la mairie, tout simplement, de prendre leur mairie pour mettre en place une réelle démocratie en impliquant le plus largement possible les habitants, quelles que soient leurs autres opinions politiques. Mais en tout cas, dans cette idée de faire démocratie ensemble. Et donc, on s'est réunis pour faire collectif et puis pour diffuser un peu cette envie, cet élan, et puis partager un peu sur les différentes techniques pratiques qui existent en France ou ailleurs pour faire démocratie ensemble.
Qu'est-ce qui vous a, disons, incité vous-même à vous engager dans ce mouvement?
Alors moi-même, depuis que je suis ado, je réfléchis à comment est-ce qu'on fait pour que les gens ils aient le pouvoir. Et donc j'ai cherché plein de façons différentes. Je me suis engagé sur des luttes sociales, je me suis engagé sur des enjeux climatiques, des enjeux environnementaux. Et finalement, j'ai découvert l'expérience du village de Saillant dans la Drôme en 2015 qui a gagné sa mairie en 2014 et qui ont fait une expérience de réelle démocratie dans leur village. Et ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a donné envie de m'intéresser à eux et de me former aussi aux outils qu'ils proposaient et ensuite de les diffuser, voilà, tout simplement.
D'accord, merci bien. On évoquera Saillant en deuxième partie d'émission d'ailleurs. Donc dans cette seconde partie, on reviendra sur vos expériences respectives. Mais si vous voulez bien, on va commencer par... quelques définitions. Donc Martine, dans l'introduction, on a déjà donné quelques-unes sur la démocratie, qui est un régime politique, un système de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé donc par le peuple, par l'ensemble des citoyens, avec notamment la démocratie représentative, qui est celle qui prévaut en France, donc régime dans lequel le pouvoir, lui, est attribué par le peuple à des représentants élus, qu'il exerce à son nom, en son nom. Et puis, on en est venu effectivement à la démocratie participative, hein, qui est une forme finalement de partage du pouvoir, qui est fondée sur le renforcement de la participation des citoyens à la prise de décisions politiques dans le cadre de la démocratie représentative. Donc pour en venir à la démocratie participative, pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de la mettre en place? Sans doute parce que la démocratie représentative était insuffisante ou posait un certain nombre de problèmes. Donc selon vous, quels sont les problèmes aujourd'hui posés par la démocratie représentative, uniquement managée par les élus? Bruno?
Oui, allez, on rentre dans le dur direct.
Ah ben oui.
Oui, ben, effectivement, on peut avoir une démocratie représentative locale, avec un maire, parce qu'on le connaît, on va connaître un peu ses qualités, ses défauts, et éventuellement, on va le choisir. Dès qu'on passe à des niveaux plus larges, on se retrouve à avoir une audience qui doit être au niveau du département, de la région ou du pays. Et pour ça, il faut beaucoup d'argent. Et forcément, c'est pas tellement la population qui aide les candidats en finançant leur campagne. Donc, ils sont obligés d'aller chercher des sous sur certaines catégorie de la
là
population,
où il y en a.
Là où il y en a. Hein, et donc après, ben faut rendre la monnaie de la pièce, et ce qui fait qu'ils sont coincés, c'est-à-dire qu'ils sont là, on a une participation ponctuelle dans un outil qui s'appelle le vote, l'élection, et ensuite, ben ils font ce qu'ils veulent en fonction surtout des intérêts qu'ils doivent représenter.
Donc il y a un problème d'argent, Daniel?
Oui, ben moi en fait j'ai envie de revenir sur quelque chose que vous avez dit, Martine, dans l'introduction, l'article 3 de la Constitution qui dit « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ». Pour moi il y a une contradiction là qui est énorme, c'est-à-dire si la souveraineté appartient au peuple, elle peut pas être exercée par des représentants, puisque les représentants ne sont pas le peuple, ils sont des personnes nommées par le peuple et qui font bien ce qu'ils veulent une fois qu'ils sont représentés. Et en fait, de manière plus large, je trouve ça assez rigolo qu'on s'amuse à mettre des termes après le mot démocratie, parce que démocratie veut bien dire le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Et une démocratie donc qui se voudrait participative, ça voudrait dire qu'on fait participer le peuple à la démocratie qui lui appartient. Enfin, moi je trouve qu'en fait, de venir mettre des mots comme ça derrière, pour moi ça montre qu'en fait nous ne sommes pas dans une réelle démocratie. Et pour moi il vient de là le problème, c'est qu'il y a une illusion de démocratie à travers le terme qui est employé, hein, qui est la démocratie représentative, mais pour moi, ceci n'est pas une démocratie. Ce qui nous pousse, du coup, à aller chercher d'autres façons de faire qui seraient plus proches d'une réelle démocratie.
Est-ce que l'État ou le peuple peut être dirigé par l'ensemble du peuple? Il y a bien un moment, il faut prendre des décisions, et si on fait des réunions pour chaque et des consultations pour chaque question qui se pose, on va passer notre vie en réunion et en consultation.
Alors, il se trouve qu'en France, nous sommes près de 70 millions de personnes et il ne s'agirait pas que 70 millions de personnes choisissent à chaque fois. Par contre, on pourrait se répartir les tâches et les missions et les prises de décision par déjà aspiration. Il y a des gens qui sont intéressés par des sujets et pas par d'autres. Et aussi par un outil très magique qui a été utilisé depuis plus de 2000 ans, qui s'appelle le tirage au sort et qui permet à certains moments donnés de choisir des personnes de manière totalement aléatoire, donc qui n'ont pas d'intérêt a priori sur un sujet et qui vont devoir arbitrer au service du bien commun.
Alors on va revenir justement sur le tirage au sort un peu plus tard. Parmi effectivement les arguments qui sont mentionnés contre la démocratie représentative, il y a l'argent, hein, dont parlait Bruno, qui fait que ben, ce sont souvent les plus riches et toujours les mêmes d'ailleurs qui arrivent au pouvoir. Il y a également l'argument selon lequel les visions d'avenir sont négligées parce qu'on se fait élire sur des mandats relativement courts et donc on est obligé de gouverner à court terme et on ne voit pas suffisamment l'avenir en termes d'environnement. C'est particulièrement crucial de voir un peu plus long. Martine mentionnait le désintérêt des citoyens et la remise en question finalement de la légitimité des élus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, bah, c'est sûr, tout à fait. Il y a la question de la légitimité, c'est ça qui fait tout, savoir en quoi les citoyens sont légitimes. Et en fait, dans les modes de démocratie participative, il y a l'idée du tirage au sort, il y a l'idée d'avoir des représentants des gens, du peuple, qui sont plus représentatifs de l'ensemble des citoyens. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on est dans des régimes plutocratiques et oligarchiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a Ce sont les décisions qui sont prises correspondent aux besoins et aux envies des 10% les plus riches et aussi des 10% les plus
éduqués.
Enfin, oui, alors ça peut être éduqué selon les pays, voilà. Mais en tout cas, c'est quand même, il y a une étude qui est citée là dans un article dont on parlera peut-être tout à l'heure du Monde. C'est une étude qui a été faite aux États-Unis et qui démontre, une étude sociologique qui démontre que clairement les décisions qui sont prises correspondent aux volontés des 10% les plus riches. Et c'est ce qu'on constate aussi en France, même si on le mesure pas aussi facilement. Il y a une étude qui prouvait la même chose en Allemagne aussi. Et il y a une autre étude qui, comme vous le citiez Renaud, qu'en Norvège, là c'était plutôt les 10% les plus éduqués qui orientaient les choix. Donc dans tous les cas, on voit que ça ne concerne pas tout le monde. Et en fait, on se prive d'une très grande partie de l'intelligence collective, on pourrait dire, de l'ensemble des citoyens, puisque chacun a l'expérience de son secteur d'activité, de sa ville, de sa vie, en fait, tout simplement. Et donc, il y a la question de l'équité. Si on veut partager équitablement la prise de décision et le partage d'expérience avant ça, il faut prendre un échantillon représentatif quelque part, de la même manière que les sondages d'opinion essayent de prendre un échantillon représentatif des Français. Donc voilà, le tirage au sort est peut-être une solution.
Alors on va revenir là-dessus, Daniel, pardon, vous vouliez intervenir.
Oui, je vais revenir sur cette notion, rebondir sur le fait que tu parlais du mot équité. En fait, j'ai envie de mettre en avant là qu'on est pour moi dans un système politique qui reproduit un certain nombre d'oppressions et de dominations au sein de notre société. La domination par exemple des hommes sur les femmes, des personnes blanches sur les personnes non blanches, des personnes éduquées sur les personnes non éduquées, des personnes valides sur les personnes non valides, etc. etc. Et pour moi, du coup, le modèle représentatif, il va surtout représenter les personnes qui sont déjà des personnes en situation de privilège. Et du coup, comment est-ce qu'une personne qui n'est pas en situation de privilège en France ou qui en a moins, elle peut se sentir légitimement représentée par ces personnes-là. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter.
D'accord. Donc, de ce point de vue, quelles sont les valeurs qui sont mises en avant par la démocratie participative ?
Je voulais revenir sur le côté, le désintérêt d'une partie de la population. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous demande notre avis, et qu'on a l'impression que c'est à peine moins à effort perdu, dans le sens où il y a de temps en temps des consultations, ou même pendant les élections, et qu'au final, on vote d'un côté, mais c'est un gouvernement d'un autre bord qui apparaît. Voilà, donc forcément, il y a un ressentiment d'une grande partie de la population, et qui sont prêts du coup à essayer autre chose, d'autres récits, plus ou moins fantasmés, et peut-être même plus dangereux, on ne sait pas. Donc, pour ça, effectivement, il faut repartir de la base, d'après moi, c'est-à-dire, comme le disait Yann, on a tous des expertises, ne serait-ce que sa propre vie, par où on passe. À partir du moment où on passe dans le territoire, on observe des choses, on a des contraintes, et donc on est capable de les révéler lors de commissions d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Donc chacun doit pouvoir exprimer ses besoins sociaux ou environnementaux, j'entends dans le territoire, et à partir du moment où il sent que ça va être pris en compte, je pense que là on va avoir une sorte de montée en compétences où les gens peuvent s'impliquer beaucoup plus, participer aux réunions du SCOT ou du plan alimentaire territorial.
Et là on en vient à l'échelle à laquelle se joue cette démocratie participative, parce que selon qu'on s'adresse à des décisions qui sont prises au niveau de l'État ou d'une municipalité, les modes de désignation des personnes qui vont délibérer, qui vont discuter puis délibérer, ne sont pas les mêmes. Donc Daniel, vous aviez évoqué tout à l'heure le tirage au sort, qui peut se faire relativement facilement, enfin facilement, encore faut-il l'organiser au niveau de l'État. Au niveau des communes, c'est peut-être davantage sur le volontariat qu'on peut s'appuyer, ou sur
Moi je prendrais bien un exemple par rapport au tirage au sort. Voilà, on pourrait tout à fait se dire, ok, chaque personne va mettre dans une urne ou sur Internet trois personnes qui pensent être capables de les représenter. Des gens qui s'expriment pas trop mal, qui ont des idées à peu près claires, qui correspondent à celles qu'on souhaite. Voilà. Ensuite, on va se retrouver dans soit la communauté de communes, soit le département, à quelques milliers de gens, et on prend les 500 qui reviennent le plus, les 500 personnes qui reviennent le plus dans ceux qui sont nommés. Et on fait un tirage au sort parmi celles-là. Donc elles sont déjà représentatives d'une population répartie sur le territoire, et on va tirer au sort de là, à l'intérieur de ça. Et on l'a vu lors de la commission citoyenne, des gens qui étaient aucun intérêt, par exemple, par rapport à l'environnement ou même climato-sceptique.
Là, vous faites allusion à la Convention citoyenne pour le climat
c'est
en
ça.
2020.
Voilà. Et donc, voilà, en quelques week-ends, quelques spécialistes qui sont venus leur exprimer les contraintes, le pour, le contre et tout ça, bah, y a eu une montée en compétences. Et à ce moment-là, eh ben, les résultats de la Convention citoyenne ont été au-delà de ce que les politiques pensaient qui était acceptable par la population. Donc on voit que ça peut marcher. Ensuite, si ça a été fait, si on reprend l'idée du tirage au sort au niveau du département, on retire au sort une partie de ces gens-là pour aller à la région, et voilà, on va sélectionner comme ça une représentation qui n'est pas issue de la candidature et donc du financement de ces candidatures. C'est ça le truc qui est important.
D'accord, là vous avez mentionné un point qui me paraît essentiel, c'est la nécessité finalement d'informer et de former les citoyens à la décision. Qu'en est-il actuellement ?
Eh bien, actuellement, la population, au mieux, de mon point de vue, au mieux, on l'informe de ce qui se passe, voire on lui demande un peu ce qu'elle en pense, et on appelle ça une consultation, mais la consultation, dans ce cas-là, porte bien son nom, puisque la consultation n'a aucune valeur à, entre guillemets, contraindre l'élu à prendre en compte la parole de l'habitant ou de l'habitante. Et donc, c'est tout. Et donc, il n'y a pas vraiment de formation qui est prévue. On va former éventuellement les élus, mais ça, j'ai aussi eu des témoignages comme quoi les élus ne sont pas forcément formés aux enjeux sur lesquels ils doivent prendre des décisions. Et c'est souvent un nombre de personnes très restreint qui sont autour des maires qui vont vraiment savoir de quoi il en retourne. Et puis ensuite, les agents, parce que les agents techniques, les personnes qui travaillent pour les collectivités, ces personnes-là sont les plus qualifiées en général parce qu'elles sont dedans depuis des années. Et souvent, quand on parle de démocratie, on ne parle pas de ces gens-là. Mais c'est ces personnes-là qui vont mettre en œuvre l'ensemble des choses qui sont décidées par le conseil municipal, le conseil départemental, etc., ou même l'État. Et ces personnes-là, elles connaissent leur sujet, mais elles ne sont pas forcément formées, dans ce cas-là, à tout ce qui est démarche participative non plus. Et elles n'adhèrent pas forcément non plus à ces démarches-là. Donc en fait, finalement, dans tout le système politique, il y a trois composantes qui me paraissent importantes. Il y a les élus qui délibèrent à la fin, actuellement. Il y a les agents techniques municipaux qui vont mettre en œuvre et les habitants qui élisent les représentants. Et donc toutes ces personnes-là, en fait, mériteraient d'être formées ensemble et devraient discuter et délibérer ensemble pour que le système soit pris dans son ensemble.
Alors, je reviens à la question de la formation, parce que pour discuter et délibérer, il faut quand même connaître ces dossiers. Tout le monde n'est pas spécialiste de tous les problèmes qui peuvent être posés au niveau d'une commune, d'un département et a fortiori de l'État. Donc, comment est-ce qu'on forme finalement à la démocratie pour éviter d'avoir des discussions type café du commerce et d'avoir des délibérations et des décisions qui sont prises uniquement sur... Ben, le souffle de l'air, le sens du vent, les petites fleurs, etc. Il faut quand même acquérir des compétences. Qui veut répondre ?
Oui.
Bruno ?
Très court, je voudrais dire, donc je parlais de la montée en compétences, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut que, pour que ça fonctionne, la démocratie, il faut comprendre les enjeux. Hein, parce que voter dans un sens, je peux prendre un petit exemple. On a choisi le nom, là on est en train de créer un tiers-lieu nourricier. Pour choisir le nom, j'avais donné quelques consignes, parce que sur Internet, il faut que les noms soient courts et que ça soit pas trop compliqué à écrire. Finalement, ça pas, dans tous les noms qui ont été sélectionnés, c'est pas celui qui était performant pour aller sur Internet, qui a été choisi. Alors, on me demande mon avis, et je dis, non, je suis pas très content du résultat, mais c'est démocratique. C'est démocratique, sauf que les enjeux n'ont pas été compris. Donc, il a fallu transformer le mot qu'on a choisi, qui s'appelle la Campadoue. On a enlevé l'apostrophe, on n'a pas raccourci le nom. Mais c'est juste le processus. Vous voyez, un petit élément comme ça, on dévie le résultat en fonction des informations qu'on donne ou pas au départ. Donc c'est très important de comprendre les enjeux.
Vous vouliez rajouter quelque chose, Yann ?
Peut-être, voilà, tu as parlé d'un exemple très, on va dire, très local, associatif, à une échelle voilà, proche de nous. Mais après, même au niveau de la convention citoyenne dont on parlait, on le sait, les gens ont été formés, comme tu l'as dit, un certain nombre de week-ends avec des experts. Et ça s'est hyper bien passé, au-delà de toutes les espérances, en fait. Tout le monde a été d'ailleurs hyper, très surpris des résultats de ce processus et a conclu que c'était très, enfin que ça avait parfaitement marché quoi. Donc en fait ça fonctionne. Oui, il faut former un peu les gens aux enjeux. Il faut qu'il y ait des gens qui les connaissent déjà, qui viennent en parler. Et puis après les gens ne sont pas bêtes. Enfin j'ai quand même envie de dire, on a souvent des sensibilités ou des expériences personnelles justement qui sont très parlantes en fait. Et au niveau d'une vie personnelle, on retrouve souvent les mêmes enjeux que ceux de la planète en fait. Par effet d'échelle, voilà. Donc les gens sont. Enfin, je pense que tout le monde est capable de comprendre.
Mais on peut tomber dans la fausse bonne idée. La fausse bonne idée, c'est-à-dire, ok, voilà, entre nous, pof, on a une contrainte, on essaye de trouver la solution. Mais c'est là où la diversité, l'intelligence collective est super intéressante. C'est parce que il y en a qu'une expérience plus sociale, une autre plus territoriale, une autre plus environnementale. Et là, on va pondérer. Les informations des uns des autres et c'est ça qui est super enrichissant. Participer à des réunions comme ça, c'est enthousiasmant quoi, et c'est accessible à tout le monde.
Daniel, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, et donc pour pas que ça finisse en foire d'empoigne ou qu'on suive la personne qui a parlé en dernier ou le vent qui passe par là, mais il y a aussi tout un tas de... Enfin, il y a un rôle notamment qui a été inventé ou développé ces dernières années qui s'appelle le rôle du facilitateur ou de la facilitatrice, qui est une personne qui a pour mission de venir animer les discussions et qui a une position neutre. Elle va pas prendre part à la discussion, elle va pas dire ce qu'elle pense sur le sujet. Simplement, elle va être là pour s'assurer que tout le monde puisse prendre part à la discussion, qu'elle soit entendue, qu'il n'y ait pas les gros lourdeaux qui coupent la parole en permanence ou qui monopolisent la parole, par exemple, et aussi s'assurer que tout le monde puisse prendre part à la prise de décision à la fin. Et donc ça, c'est un nouveau rôle qui est très peu présent pour l'instant dans les collectivités. En général, dans un conseil municipal actuellement, c'est souvent le maire ou la maire qui anime les discussions. A priori, c'est la personne qui a le plus de pouvoir dans l'Assemblée, donc c'est pas très neutre comme posture. Mais du coup, avoir ce rôle-là, qui a une vision totalement neutre sur le sujet, permet de permettre vraiment de créer l'intelligence, les conditions de l'intelligence collective et que l'ensemble des personnes soient vraiment ensemble, quoi.
Alors ça, c'est effectivement, on retrouve le rôle des modérateurs ou des animateurs de réunions publiques. Hein, ça, les lois de 1980 et quelques ont mis en place dans toutes les réunions publiques la présence de modérateurs qui sont là pour animer sans prendre part au débat, mais pour réguler la bonne manière de discuter, d'élaborer, etc., etc. Ça, je suis d'accord. Est-ce que, pour autant, il n'y a pas un risque de manipulation qui existe? Alors, Bruno, tout à l'heure, disait que il suffit d'être un lobby, finalement, assez riche pour influer sur les décisions des députés, des sénateurs, etc. Est-ce qu'il n'y a pas également ce risque au niveau des réunions de démocratie participative?
Tout le monde arrive avec un passif. On arrive avec les fake news qu'on a entendues, où on peut être persuadé que c'est vrai, ou autrement, bah, les médias mainstream qui peuvent aussi ne donner que des certains aspects du problème. Et maintenant, en plus, on a l'IA, hein, l'intelligence artificielle. Et donc, effectivement, on a un océan, un abîme de risques. Et pour ça, il va falloir savoir décoder. Je suis pas sûr qu'il y ait assez de cours pour les élèves de décoder, de la capacité de décoder l'information. C'est extrêmement important. C'est-à-dire, ok, lui il dit ça. D'où il dit ça? Il a quoi comme statut? Quels intérêts il a pour pouvoir donner cette information? Et voilà, si on est capable, au lieu de essayer de trouver toutes les solutions, non, on nous donne l'outil de décoder l'information, on arrive déjà à faire peut-être moins d'erreurs.
D'accord. On va bientôt arriver à la fin de cette première partie. Je voudrais juste vous poser la question de savoir si, lorsqu'on tire au sort des gens, est-ce qu'on va les obliger à participer? Et est-ce qu'avec cet outil de démocratie participative, finalement, on ne va pas faire participer que ceux qui sont intéressés au projet? Qui veut répondre ? Daniel ?
Alors, je ne sais pas si on en parlera plus en profondeur tout à l'heure, mais moi j'ai participé très récemment à une expérience de démocratie dite délibérative dans ma commune de Vence, et on a tiré au sort des habitants et des habitantes. Effectivement, hein, la plupart des personnes étaient des personnes retraitées, des personnes blanches, qui étaient plutôt issues de catégories sociales plus aisées. Pour autant, le fait de tirer au sort va permettre quand même d'inviter des gens qui ne se sentiraient pas légitimes pour venir si simplement on leur disait « venez ». Le fait d'aller, parce que ce qu'on a fait avant, c'est qu'on a été faire du porte-à-porte avec notamment des élus. On a été toqué à des portes, on a été voir les habitants, on leur a dit « vous avez été tiré au sort pour participer à cette expérience ». Et donc, bien sûr que le pas à franchir est plus compliqué pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de s'impliquer que pour des personnes qui ont l'habitude de prendre la parole en public, etc. etc. Pour autant, faire ce travail-là sur le long terme, de mon point de vue, va permettre aux gens de se sentir vraiment légitimes de venir participer. Et est-ce qu'on va les obliger ou non ? Bah, pour l'instant, il n'y a rien qui nous permet de faire ça. Et puis, les gens, bah, ils ont un travail, ils ont besoin de payer leurs factures. Et pour l'instant, il n'y a pas non plus de compensation financière qui est forcément prévue légalement pour les personnes qui participent à la vie démocratique. Donc, ce n'est pas non plus évident pour tout le monde de ce point de vue-là de le faire. Pour autant, le tirage au sort permet d'aller chercher des personnes qui n'y seraient jamais allées toutes seules.
Ben merci beaucoup. On va rentrer dans une deuxième partie, dans les exemples de terrain que vous allez pouvoir développer. Mais auparavant, on va prendre le temps d'une pause musicale pour écouter « Le temps des gens » de Philippe Serran.
Comme un parfum de fleurs légères dans les avenues de Manhattan, comme un grand vent d'hommes et de femmes au milieu des pingouins d'affaires. Un jour de printemps à Lisbonne, les tout premiers se sont levés. Par millions, ils ont semé la nouvelle donne. Le temps de l'argent, ce triste temps, ces chaînes et ces servants, ce temps va finir. Sens-tu le vent? Oh, vois-tu venir? Aux quatre coins des terres de France, le cri d'un jeune résistant d'à peine 90 ans insurge les cœurs et les consciences sur toutes les places des villes d'Espagne. Le raz-de-marée s'amplifie, le temps des mensonges est fini, voici l'espoir qui gagne. Le temps de l'argent, ce triste temps, ses chaînes et ses servants, ce temps va finir. Sens-tu le vent? Oh, vois-tu venir le temps des gens?
Nous reprenons donc le cours de notre mission parlant des droits humains sur la démocratie participative avec nos invités Yann Salagnon, Daniel Aubufoucard et Bruno Bazir. Donc on va revenir un petit peu sur les domaines d'intervention de la démocratie participative. On a évoqué à un moment donné l'environnement. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous pouvez utiliser, je dirais pas cette technique, mais ce processus ? Yann ?
Moi, j'aurais envie de répondre oui, tous, parce que je vois pas pourquoi on se priverait de démocratie participative dans un domaine plutôt que dans l'autre. Enfin, je sais pas ce qu'en pensent mes camarades, mais voilà, moi ça serait ma réponse. Il n'y a pas de raison de privilégier. Alors par exemple, on a eu la Convention citoyenne sur le climat en France, donc oui, là c'était sur l'environnement, mais on peut très bien l'appliquer au transport, à l'alimentation, à l'éducation, à tout ce qui concerne...
Aux services sociaux, disait Bruno.
Voilà, à tout ce qui concerne la vie de tout le monde, quoi, des citoyens, de la communauté.
Voilà, c'est donc commun. Tous les sujets.
Voilà, en fait, on a des biens communs, puisque c'est un terme qui est devenu à la mode, bah, c'est quand même sympa de décider en commun de ce qu'on fait, des biens communs, du bien commun. Voilà.
Et donc là, j'aimerais qu'on évoque un petit peu on est parti du local tout à l'heure, j'aimerais qu'on aille un peu sur l'international. Est-ce que vous avez des exemples de processus de ce genre qui ont fonctionné dans d'autres pays? Yann également?
Oui, bah alors il y a l'exemple, il y a eu des conventions en Irlande, notamment sur les sujets de l'avortement, la décriminalisation de l'avortement. Qui a été assez connu récemment, et là le processus il a vraiment fonctionné parce que Alors il y a une première assemblée avec deux tiers de citoyens et un tiers de parlementaires, et ensuite il y en a eu une seconde avec que des citoyens tirés au sort. Donc là on est revenu à 100% tirage au sort, et ça a fonctionné parce que les recommandations qui ont été prises ont été transmises au Parlement irlandais, et puis qui a soumis directement la question à un référendum. Et donc là on a eu tout le processus, c'est-à-dire réflexion, recommandation, parlement, référendum, et ça a récolté l'approbation des citoyens au final, puisque les mesures ont été suffisamment équilibrées, suffisamment légitimes pour que c'est passé derrière assez logiquement.
Oui, et ce référendum avait quand même obtenu 62% des voix pour, voilà, en faveur de cette réforme. Et est-ce qu'il y a d'autres systèmes qui pourraient être mis en place ? On parle des votations en Suisse. Est-ce que pour vous, c'est de la démocratie participative ?
Alors, j'ai eu la chance d'avoir une amie de mon fils qui est partie pendant un an et demi. Elle a fait mettre son courrier chez moi. J'ai reçu donc toutes les votations pendant un an et demi. Donc j'ai pu lire, voir tous les processus d'information, une explication neutre d'abord, une explication par le gouvernement, hein, et ensuite par ceux qui ont porté l'idée à la votation. Et du coup, on a trois aspects de la votation qui nous permettent de dire, ok, on se positionne pour ceci ou contre, et du coup, on est des fois surpris que la population vote des choses qui sont restrictives au niveau avantage ou bien-être de la population. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris conscience qu'il y avait des enjeux. Et donc, effectivement, ça fonctionne très très bien. Et même on pourrait le faire en France peut-être. Il faudrait éduquer, sortir un peu de ce matraquage qu'on a avec les médias sur l'information, où ils ne s'intéressent dans les journaux télévisés essentiellement qu'aux petites phrases, aux attitudes, et non pas trop sur le contenu. Il faut aller chercher des émissions qui creusent sur le fond pour comprendre un peu mieux les enjeux.
Oui, c'est un bel exemple avec quand même des années d'expérience et donc une éducation des citoyens helvétiques à ce genre de consultation. Daniel.
Oui, je trouve que le référendum, c'est un super outil pour arriver à prendre une décision à la fin et valider un choix collectif, comme tu le disais, Yann, dans ta présentation, comme tu l'as présenté là en Suisse aussi. Et en même temps, j'ai envie de mettre un point de vigilance sur cet outil-là, parce que c'est le référendum, c'est un vote. Un vote, ça inclut qu'il y a une majorité, une minorité, et qu'on décrète que c'est la majorité qui a raison sur la minorité. Donc, déjà, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont raison, des gens qui ont tort. Donc, en termes de démocratie, d'inclusivité, je pense qu'il y a des techniques beaucoup plus adaptées pour faire société ensemble, plutôt que de dire qu'il y en a qui ont raison et d'autres qui ont tort. Et puis, c'est là où, pour moi, les lobbies, qu'ils soient citoyens ou qu'ils soient des multinationales ou autres, peuvent prendre le pouvoir, parce que la personne qui aura le plus d'argent pour faire la pub, l'information dans son sens, pourra influencer le vote. Et aujourd'hui, il y a une autre façon de prendre des décisions qui existe, qui s'appelle la prise de décision par consentement, où on va pas chercher à ce qu'il y ait une majorité, une minorité, on va plutôt chercher à ce que plus personne ne soit opposé au choix qui est fait par le groupe. Et donc ça permet que personne ne peut venir avec sa grosse voix et tout le monde va le suivre. C'est tant qu'il y a quelqu'un qui dit non, moi je pense que là il y a un danger pour nous si on prend cette décision là, et on sera obligé de la prendre en compte, et donc ça empêche tout lobbyisme finalement.
Ça s'appelle un consensus. Par contre, le défaut qu'on pourrait poser, c'est qu'on arrive à des décisions qui sont moyennes. Et que sur certaines prises de décision qui nécessitent peut-être une réaction rapide, on a des alternoiements et des possibilités de reculer la décision. Pensez pas que c'est un danger d'arriver à quelque chose d'un peu tiède. Je provoque un peu, hein, là, mais...
Alors déjà, j'ai bien dit le mot consentement, parce qu'il ne s'agit pas de que tout le monde se mette d'accord et soit d'accord. Parce qu'effectivement, si on discute 3000 ans, à la fin, on va tous réduire au maximum nos exigences, entre guillemets, notre postulat de base pour arriver à quelque chose de tiède. Mais le consentement, c'est plutôt partir du principe que on va construire ensemble une proposition et au bout d'un moment, quelqu'un ou un groupe de personnes va porter de manière affirmée un choix qui répond à la problématique et qui ne soit pas tiède. Et on va demander aux gens, ok, est-ce que vous pensez que si on fait ça, il y a un danger pour nous ? Est-ce qu'on peut prendre cette décision, même si vous n'êtes pas d'accord à 100% ? On va chercher à prendre une décision sans forcément se mettre d'accord. Et à mon avis, c'est possible dans ce cas-là, de le faire.
Merci, ça éclaire effectivement votre réponse précédente. Yann, vous voulez évoquer la mise en œuvre justement de ces décisions. Comment on arrive à partir d'une décision participative à la faire décliner au niveau national ou par un parlement ou... Vous avez donné l'exemple de l'Irlande. Oui. Est-ce que vous avez d'autres exemples à nous donner?
Sous la main, il y a un exemple en Islande aussi. Il y a eu plusieurs référendums en Islande sur des sujets comme le mariage pour tous et l'avortement, et qui sont pourtant des sujets très clivants, qui étaient des sujets très clivants dans le pays. Et ça, en fait, voilà, il y a eu le problème des outils, parce qu'ils ont utilisé des référendums à choix multiples pour... Enfin, il y a la question de la formulation, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut passer des décisions qui sont prises à des questions qu'on formule, mais là, on en revient au référendum, donc je sais pas si c'est vraiment... Enfin, t'as montré, Daniel, que c'était pas le seul outil possible. Mais voilà, il y a toute la question de la formulation de là ou des questions, bien sûr, qui doit être très précise, très, très travaillée. Et puis la connexion après avec... Enfin, faut avoir la garantie que derrière, ça va être connecté à la décision politique, c'est-à-dire que à la rédaction d'une loi, par exemple, et que faut que tout le processus soit là, quoi, que ça débouche sur quelque chose de concret. Sinon, on en revient à la perte de confiance dans...
Oui.
Comme on l'a fait avec la Convention citoyenne pour le climat. Mais oui. Peut-être aussi, par contre, qu'il ne faut pas lâcher dès le premier échec, parce que vous voyez, la Convention citoyenne, elle n'a pas marché, mais pour autant, elle a montré plein de qualités, et c'était la première fois qu'il y avait une telle proposition de démocratie participative en France, donc peut-être qu'il faut réessayer maintenant, en fait. Et aller cette fois jusqu'au bout du processus.
Oui, il faut effectivement arriver à une application de certaines mesures. C'est une évolution qui semble souhaitable. On va peut-être décliner maintenant chacun dans votre partie. J'aimerais que vous nous donniez des exemples de ce que vous avez pu réaliser. Donc Bruno, demain pour Fayence.
Voilà.
Exemple d'action.
Oui, on a fait donc des ateliers participatifs pour les élections municipales, donc en amont des élections. On a réuni des gens, des habitants, mais il y a des candidats qui sont venus également participer à ces ateliers. On a travaillé différents thèmes, alimentation, territoire, urbanisme, tout ça. Et ensuite, on a fait ça dans plusieurs villages. On a ensuite organisé le 7 février 2020 une soirée avec tous les candidats. Tous sont pas pour des raisons X venus, mais la très grande majorité des candidats, donc de tout parti et de tout village, sont venus. Et on a présenté un peu donc le processus. On leur a posé des questions justement sur qu'est-ce qu'ils avaient l'intention de faire en tant que maire, s'ils sont élus, sur la démocratie participative et également sur l'adaptation du territoire par rapport au changement climatique. Donc ils avaient 3 minutes chacun pour s'exprimer et ensuite on leur a remis les travaux des ateliers participatifs. Donc ils sont tous partis avec un petit dossier avec toutes les idées qui étaient issues de la population, qui concernait parfaitement le territoire. Voilà. Donc, on les a filmés.
Et est-ce que vous en avez vu une déclinaison sur leur programme ou leur action suivante ?
Clairement, tout de suite, non. Par contre, on s'est retrouvé en 2022, en 2023, avec un manque d'eau sur le pays de Fayence, où là, il y a eu grosse panique des élus, il y a eu un électrochoc, bien sûr, ils n'ont pas à faire référence à ce que nous, on avait fait avant. Mais peut-être qu'on a préparé le terrain à ce que d'un coup, il y a une décision aussi importante qu'on arrête les permis de construire pendant 5 ans.
D'accord.
Plus des travaux d'adaptation, des rénovations des réseaux. Donc un gros investissement, une focalisation sur cet aspect-là. Et actuellement, on est plus sur... On a participé aux ateliers du plan alimentaire territorial et les élus nous ont dit dans un des éléments qui était apparu régulièrement, c'est-à-dire la création du tiers-lieu nourricier, ils nous ont dit « Banco, on est prêt à vous suivre sur l'élaboration de ce projet. On verra si ça aboutit, mais on est en plein dedans. »
Oui, donc c'est un processus lent, mais au bout du compte, on voit effectivement des éléments. Daniel, vous êtes investi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans une liste citoyenne et participative aux élections municipales de Vence, qui s'est inspirée d'une expérience d'un village drômois, essayant.
Tout à fait. Donc le village de Saillant, dans la Drôme, 1200 habitants, pour la faire très courte, en 2013, ils se sont battus contre l'implantation d'un supermarché dans leur village. Ils ont gagné ce combat-là. C'était un projet porté par le maire de l'époque. Et finalement, à la fin de leur parcours, ils ont décidé de créer une liste citoyenne parce qu'ils ne voulaient pas que le maire contre qui ils s'étaient battus pendant un an reprenne le pouvoir dans leur commune, dans leur village. Et à la surprise générale, ils ont gagné. Et ils ont expérimenté du coup tout un tas de techniques. Mais si vous voulez bien, c'est très documenté science. Si les gens sont intéressés par ce sujet, il y a même un film super qui s'appelle Commune Commune qui retrace l'ensemble du parcours de ce village pendant les 6 années de leur mandat. Et moi, j'aimerais bien revenir, si c'est possible, sur l'expérience qu'on a menée à Avance. Parce que du coup, Avance... je suis allé en tant que citoyen, simple citoyen, faire une proposition à l'élu à l'environnement et à la démocratie participative de notre ville, de faire une expérience de démocratie sur l'aménagement d'un jardin public. Et j'ai eu la chance, avant, que cet élu et que l'ensemble des élus de la majorité fassent confiance à cette proposition et qu'on fasse une expérience du coup vraiment différente et qui est novatrice en France, puisqu'il s'agit d'associer dès le départ des élus, des agents communaux et des habitants tirés au sort pour décider ensemble. Et donc c'est ce qu'on a fait à Avance. L'objet c'était donc d'aménager un jardin public et il y a 12 personnes, dont 7 habitants qui ont été tirés au sort dans le quartier du jardin en question, qui se sont réunis à 7 reprises sur une période de 6 mois et qui ont délibéré ensemble finalement sur l'aménagement de ce jardin. Et ça a fonctionné au point qu'à la fin, dans les témoignages finaux, moi j'ai adoré entendre plusieurs personnes dire à la fin... je ne savais plus de qui venaient les idées et j'ai eu l'impression qu'on a réussi à se mettre d'accord sans vraiment être en conflit ou avoir à débattre, simplement parce qu'il y avait des outils d'animation qui permettaient que tout le monde puisse s'exprimer, que les gens ont pris leur place au sein du projet et aussi j'ai envie de souligner que la mairie était d'accord pour qu'il y ait une personne de l'équipe minoritaire, donc un élu minoritaire qui a fait partie de ces 12 personnes, et ce qui a aussi permis dès le départ de faire en sorte que tout le monde soit inclus. Et donc on a eu un processus dans son ensemble qui a permis de prendre une décision et voilà, collégiale.
Et là il y a une question qu'on n'a pas préparée mais qui me vient, vous avez tous des expériences très positives, est-ce que quelque part il y a un maillage de ces expériences qui permettrait au maximum de gens de pouvoir en profiter et de les reproduire? Yann, par Alternatiba, ouais. C'est un peu ce que vous faites.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Alternatiba a édité il y a quelques années, a mis en ligne un site qui existe toujours, qui s'appelle Transiscope, qui recensait, mais là, c'était plutôt un recensement des alternatives, en fait, sur le territoire, pas spécialement que des expériences de démocratie participative, mais c'est vrai que ça serait bien. À ma connaissance, il n'existe pas ce maillage. Mais Daniel, toi, t'en sais peut-être un peu plus avec certains groupes, certaines associations.
Ben en fait, c'est l'objet même du collectif Fête de la démocratie qu'on a créé donc en 2021 et qui a pour objet de regrouper au niveau du 06 les différents collectifs citoyens qui s'impliquent sur le territoire et qui soit veulent prendre le pouvoir, soit veulent simplement inciter leur collectivité, leur mairie à mettre en place des processus démocratiques. Voilà, donc si ça vous intéresse, Fête de la démocratie pour le 06, il y a un site internet et vous pourrez trouver un peu ce qui se passe.
D'accord.
En tout cas, je me rappelle pour 2020, là, il y avait plein d'initiatives. Donc Var en Transition avait produit ça, il y avait le mouvement Utopia. Hein, qui a produit également tout un processus pour accompagner donc les équipes qui voulaient s'y prendre. Donc ils ont publié aussi des guides et il y en avait d'autres qui me reviennent pas en tête là tout de suite, mais c'est vrai que ça foisonnait.
Oui, mais c'est ça qui est très positif. Alors justement, j'aimerais qu'on en arrive un petit peu et maintenant, c'est-à-dire les perspectives. Comment voyez-vous l'avenir? Quelles sont vos hypothèses, pessimistes, optimistes? Vous développez des projets qui fonctionnent. On en a vu certains au niveau national qui ont besoin d'être renouvelés. Comment on peut avancer? Comment, dans votre, je dirais, action locale et dans votre vision globale, voilà, l'avenir. Est-ce que ça peut continuer? Est-ce qu'il va y avoir d'autres freins? Comment vous voyez ça?
Peut-être que je peux commencer,
oui,
parce qu'en fait,
nous,
je pense qu'on est les moins avancés, nous, là-dessus. Parce qu'en fait, nous, on est... alors il y a des groupes Alternatiba en France qui ont expérimenté des processus de démocratie participative. À Nice, on ne l'a pas tellement fait. Je dirais qu'on en est plutôt au stade de l'appropriation culturelle. C'est-à-dire qu'on essaye de s'acculturer à ça, et à la fois en essayant de mettre des choses en place dans notre association ou dans les collectifs dont on fait partie, voilà. Et enfin, c'est toujours sur le thème de l'écologie et du social, des avancées sociales. Et puis après, on observe ou on participe à ce que met en place la mairie. Moi, je suis sur le territoire de Nice, donc. Mmh. Et alors là, du coup, c'est intéressant aussi parce qu'on observe ce qui se fait. Et là aussi, en fait, dans les deux cas, je pense qu'on est pas encore assez avancé du tout à mon goût au niveau culturel. C'est-à-dire justement ce qu'on fait aujourd'hui, quoi, de parler de la démocratie participative et de voir comment on peut la mettre en place. Et nous, dans les associations, on essaye dans nos réunions, on se forme à la facilitation, par exemple. Bah, d'ailleurs, on l'a fait avec Daniel, ici présent, qui est formateur aussi dans ce domaine. Et on a fait plusieurs formations. Et voilà, on essaye que les processus de réunion, les processus décisionnels soient de plus en plus démocratiques. Mais attention, faut pas justement faire preuve d'angélisme, c'est compliqué parfois. Enfin, c'est pour ça que je parlais d'appropriation culturelle, parce qu'en fait, comme tout le monde, on manque d'habitudes et les vieux, on va dire, les vieilles habitudes reviennent vite au galop et on doit nous-mêmes, je pense qu'on a tout intérêt à s'observer et à changer nos processus régulièrement. Et ce qu'on voit au niveau de la ville, c'est pareil, c'est que des fois, il y a des consultations citoyennes, il n'y a pas vraiment d'assemblée citoyenne, voilà. Par exemple, là, il y a dans le quartier de l'Ariane, à Nice, il y a un conseil citoyen qui va se relancer, qui est en cours de se relancer, qui a une nouvelle animatrice, donc voilà, ça c'est à suivre. Et puis, voilà, au niveau de la ville, il y a des tentatives d'impliquer les citoyens qui, des fois, fonctionnent, et des fois, on voit clairement que la culture n'est pas encore là. Donc, continuer ce processus d'acculturation, je dirais.
D'accord. Daniel, vous qui êtes formateur, vous avez aussi cette vision-là, je suppose ?
Alors oui, je trouve que c'est très intéressant que tu appuies sur ce côté culturel, parce que la démocratie à la française nous a plutôt invité à apprendre à débattre, à dire que son point de vue, c'est le bon, plutôt qu'à essayer d'écouter l'autre et d'essayer de voir comment est-ce qu'on fait des compromis, comment est-ce qu'on fait même un choix qui n'était pas du tout imaginable au départ, en justement faisant foisonner toutes les idées que chacun et chacune peut avoir. Et en fait, c'est là pour moi le début, effectivement, c'est se rendre compte qu'actuellement, on est dans une culture plutôt de la compétition et de la domination, et basculer vers un autre paradigme qui serait plutôt la posture de la coopération. Et donc, ça inclut apprendre à s'écouter, à poser le temps, à réfléchir, et arrêter d'être toujours dans cette recherche de l'efficacité permanente, de faire vite, le mieux, le plus optimisé possible. Et j'ai aussi envie de dire autre chose, mais j'ai oublié.
Bon, alors Bruno, peut-être laissera un mot de conclusion.
Tellement de choses.
Oui, sur les perspectives.
Perspectives. Un exemple tout bête, participer aux réunions organisées par les administrations, donc le plan alimentaire territorial, le plan climat, air, énergie, les SCOT et tout ça. Donc il y a des réunions publiques où on peut poser 2-3 questions à la fin, mais aller forcer un petit peu la main pour rentrer aux réunions avec les élus, les bureaux d'études, parce qu'il y a des gens, les lobbyistes, qui vont tirer dans un sens, vous pouvez tirer vous dans l'autre sens. Donc ça, c'est super important. Maintenant, c'est vrai que les enjeux sont énormes, on risque des épisodes méditerranéens, il faut adapter le territoire, il faut organiser donc l'auto-organisation des secours dans la population, et voilà, ça, c'est des choses très concrètes, et il y a actuellement des financements même pour ça, donc il y a des outils, faut vraiment pas hésiter. Les jeunes, surtout les jeunes, là il faut arriver à les impliquer, et puis quand on arrive à en trouver, ils sont géniaux parce qu'ils maîtrisent parfaitement les outils de maintenant et on a accès tout de suite à l'information. C'est important.
Merci beaucoup. Avant la conclusion, nous allons faire une dernière pause musicale. Démocratie de l'accent.
Bien avant Jésus, esclavage pour des inégalités sociales. Athènes sans taille, Athènes se taille. Une nouvelle classe urbaine émergée conteste que les pauvres conservent, ce que les nobles conservent. La démocratie jaille, la démocratie jaille. Le pouvoir au peuple ne lui appartient plus. En France, il est parti dans les partis, bien répartis, véhicule l'empathie. On joue dans leur partie et la terre en pâtit. On est devenu le problème. En fait, on est la solution. Pendant qu'on les juge, ils nous perdent. Ne font que s'adapter à l'opinion.
La poudre aux yeux, un véritable spectacle de magie. Ils ont l'idée, nous avancerons. Le jeu se nomme démocratie. On retire notre socle, oui on retire notre socle. Même si le cube est jeté, si on retire notre socle, ne pas s'éloigner des autres, renverse les règles de l'échec.
Puis on est né dans un pays en démocratie.
En démocratie. Oh.
Puis on est né dans un pays en démocratie.
En démocratie.
Puis on est né,
puisqu'on est né
dans un pays en démocratie.
En démocratie. Oh. On pense qu'il est grand temps de montrer les vertus de la vie.
On ne choisit pas où l'on est pourtant. La terre que j'ai foulée enfant, où est celle que je défendrai tout le temps. Malgré ses défauts, je la porte dans le sang. Je parle de la France au sens large, un pays en couleurs chargées d'histoire. Ne laissons pas les politiques à ramener leurs idées noires. Et quand elles me déçoivent, je me barre en voyage voir d'autres territoires et paysages. Là où le partage règne, on ne se pose plus de questions. Les gens quittent leur terre pour des réponses. J'ai eu affaire à des gars sympas, fuyant une dictature d'un autre âge. La démocratie, ils ne la connaissent pas. Les lois sont dictées par les rois.
Ils passent des lois parfois dans la vue d'un seul point de vue. On ne peut pas tout voir. Démocratie, même quand les manifs n'exercent plus aucun contre-pouvoir. Bosser, atteindre les sommets, je médite pour ceux qui m'ont sauvé. Le vaisseau français est offensé. La liberté d'expression poursuit Dieu d'eau.
Liberté, égalité, fraternité. Comment ça se fait? Certains se sentent pas intégrés. Il faut de tout, un peu de chacun. Même les chacals se trouvent des catins. On n'est plus victime quand on passe à l'action. La clé se trouve dans le pardon.
Puisqu'on est né dans un pays en démocratie.
Eh bien, nous terminons notre émission Parlons des droits humains, consacrée ce soir au thème de la démocratie participative, avec Yann Salagnon d'Alternatiba, Daniel Obufoucard du mouvement citoyen Fête de la démocratie et Bruno Bazir du collectif Demain Pays de Faïence. Donc, il y a eu beaucoup de choses échangées. J'aimerais que chacun, en 30 secondes maximum, vous nous disiez quel message vous voudriez donner aux auditeurs. Yann.
Oui, bah moi, ça serait vraiment encourager chacun, chacune à rejoindre des associations, des collectifs, à faire des expériences de démocratie participative au sein de ces organisations et d'encourager leur mairie aussi, vraiment aller voir leurs élus et les encourager à mettre en place des processus comme ça. Voilà. Soit rejoindre des mouvements, soit être moteur, soit les déclencher, quoi.
Merci. Daniel.
Moi, je vais préciser que la démocratie, c'est pas seulement au niveau public que ça se passe aussi dans les familles, ça se passe aussi dans les associations, ça se passe aussi dans les entreprises, ça se passe aussi dans les groupes d'amis, ça se passe partout. La démocratie, c'est un principe qui, pour qu'elle soit réelle, soit développée dans l'ensemble des sphères dans lesquelles on évolue. Et puis j'ai envie de donner un dernier message auprès des élus plutôt, qui serait de dire bah, osez faire appel à votre population pour discuter et décider ensemble. Ça ne sera jamais parfait. Rien n'est jamais parfait. Par contre, ça permettra vraiment de faire un mieux vivre ensemble sur votre territoire et je vous encourage vivement à le faire.
Merci.
Ben, j'aurais pu dire la même chose, c'est super. Donc, sinon, si vous êtes du Pays de Faïence ou autour, venez rejoindre le collectif Demain Pays de Faïence tout attaché.com, le Facebook, WhatsApp et ainsi de suite. Voilà. Et puis là, on est en train de faire ce super projet de la Campadou, le tiers-lieu nourricier. À bientôt.
Voilà, et donc sur vos différents sites internet, on peut retrouver les initiatives, les propositions, les appels. Eh bien, merci beaucoup
merci.
À tous les trois et au revoir
merci,
la prochaine fois. Donc vous pouvez réécouter cette émission que vous pouvez télécharger sur le site d'Agora Côte d'Azur, sachant également que l'émission sera rediffusée dans 15 jours, lundi à 21h sur Agora. Et nous vous donnons rendez-vous donc pour notre prochaine émission Parlons des droits humains qui aura lieu le lundi 18 novembre 2024. Donc à bientôt et bonne soirée à tous.